Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin au micro de Chrétien d'Orient, je reçois Anaïde Termination, habituée de nos rencontres dominicales. Bonjour Anaïde.
Bonjour Sébastien.
Alors nous allons aborder ce matin la question de l'intégration des communautés chrétiennes d'Orient en France. Des réfugiés parmi tant d'autres. Nous allons évoquer l'arrivée des Arméniens en France, chez nous après 1915, pour arriver ensuite jusqu'à notre époque où les nouvelles victimes sont des Irakiens, des Syriens, des Libanais aussi, ne les oublions pas, où l'on voit des nouvelles églises se construire en région parisienne pour accueillir ces nouveaux paroissiens. Nous vous savons très touchés par le drame du déracinement et de l'exil, celui de votre famille. Comment aborder cette question délicate à notre époque ?
C'est une question douloureuse, surtout pour la première génération, pour celle des migrants qui partent, qui abandonnent leur terre, leur village forcé. Si nous parlons aujourd'hui, par exemple, des Assyro-Chaldéens, je parle de dénomination générale pour parler des chrétiens d'Orient liés à l'Église catholique depuis fort longtemps, des chrétiens d'Irak ou des chrétiens de Syrie. Et il n'y a aucun doute que ceux qui partent, partent forcés, partent pour fuir soit la guerre en Irak, soit Daesh en Syrie, de placer devant une alternative absolument épouvantable pour ces peuples qui, depuis deux millénaires ou plus, ont maintenu leur foi en la personne, donc en l'Église chrétienne, ils sont placés devant l'alternative de se convertir ou de se voir purement et simplement massacrés ou avoir la tête coupée. Quand je dis cela, ce n'est pas tout à fait par hasard. J'ai rencontré il y a exactement, quelques mois, un Arménien de Alep. Bon, un Arménien de Alep qui est aussi un chrétien d'Orient, réfugié à Lyon, et qui m'a dit, mais on n'avait pas le choix, c'était partir ou être décapité, ou devenir musulman, et ça c'était absolument impossible. Alors, ce départ est un départ douloureux, c'est un départ forcé, ce n'est pas un départ accepté, et ce n'est pas non plus un départ acceptable pour nous. Je pense à la France, puisque nous sommes à Paris, et que quand on parle des chrétiens d'Orient aujourd'hui, soit ceux qui sont arrivés au début du XXe siècle comme les Arméniens, ou ceux qui arrivent aujourd'hui, difficilement d'ailleurs, il faut dire, les Assyro-Chaldéens, encore une fois pour les désigner d'un terme général qui n'est pas vraiment générique non plus, parce qu'ils sont beaucoup diversifiés que cela, ce départ n'est pas à encourager. L'Église catholique française qui entr'ouvre un peu les portes de la France, je dis bien qui entr'ouvre parce que il me semble que les autorités politiques ne favorisent pas particulièrement l'arrivée des chrétiens d'Orient en France. Pas plus d'ailleurs, il faut dire, des réfugiés musulmans qui, par millions, sont à la porte de l'Europe. Mais ces chrétiens d'Orient arrivent dans un pays qu'ils considèrent comme un pays chrétien, comme un État chrétien. Et ils découvrent une société déchristianisée jusqu'à un certain point, où la religion est une religion pour mémoire, pour reprendre la formule de Madame Hériot-Léger, bon, qu'on peut contester, qu'on peut discuter, dans un pays dont la culture est le résultat de 1500 années de christianisme en France évoluées avec des périodes extrêmement variées qui sont la Renaissance, la Réforme, les mouvements révolutionnaires depuis la Révolution française, en particulier la Révolution française et les révolutions françaises du 19e siècle, qui ont abouti à cette chose extraordinaire qu'est la France d'aujourd'hui, c'est-à-dire une république démocratique, laïque, mais qui se veut une et indivisible. Et dont la solidité du socle permet la réception et l'intégration de ces nouveaux venus qui arrivent avec des langues différentes, une religion malgré tout chrétienne mais différente, des sensibilités, des mœurs différentes, des organisations familiales différentes, et que la France va connaître, accepter petit à petit, et voir au cours du temps, si ces chrétiens ne retournent pas chez eux un jour, par finir probablement par les intégrer au cours des générations, probablement les assimiler.
Est-ce que vous pouvez parler de votre expérience familiale maintenant? Parce que vos parents ou grands-parents
d'une expérience arménienne,
ont vécu la même
arménienne, chose. Mais elle est là aujourd'hui, quand on parle des Arméniens en France, d'abord, on ne sait pas exactement ce qu'on entend par les Arméniens en France, puisqu'ils sont arrivés au début des années 20, ça va faire presque un siècle. Bien sûr, il y avait au Moyen-Âge, surtout au XVIIe, XVIIIe siècle, quelques centaines d'Arméniens, même à la veille de la guerre de 14, 3 ou 4 000 Arméniens en France. Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'émigration des Arméniens à la suite du génocide de 1915-18, disons 1915-1918, et l'arrivée des Arméniens en France après un passage presque obligatoire par les pays du Proche-Orient, qui sont devenus, alors ça c'est l'histoire de ces pays,
le Liban, l'Égypte,
la Syrie et le Liban, qui sont arrivés parfois avec une nationalité syrienne ou libanaise. Parfois ils avaient une nationalité ottomane qui a disparu, parfois ils sont arrivés apatrides. Et cette arrivée, elle se fait toujours dans ces conditions-là. La France était un pays refuge. Quand des émigrés qui ont subi les épreuves d'un génocide, et c'est le cas des Assyro-Chaldéens, il ne faut pas oublier aussi que les Arméniens n'ont pas été les seuls, pendant la Première Guerre mondiale, à souffrir des méfaits d'un génocide. D'autres peuples revendiquent ce type, précisément les Assyro-Chaldéens ou encore les Grecs pontiques, dont on parle pratiquement jamais, sauf les spécialistes des migrations internationales. Ce pays refuge semblait, par exemple, je pense à Marseille, dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui était une ville transitoire. On arrivait à Marseille, soit pour aller un peu plus loin, le sillon rhodanien ou la région parisienne, soit pour tenter d'aller encore plus loin vers les Amériques. Ville transitoire. Et puis c'est devenu, comme pour beaucoup de peuples, une ville finalement d'enracinement. Et quand les exilés sont arrivés, les Arméniens, ils avaient en tête qu'ils retourneraient un jour dans leur village et dans leur ville, peut-être pas tous, mais certains. Je vais vous dire, il y a quelques années, ça remonte maintenant à 20 ou 30 ans, en tant qu'historienne, j'ai reçu un jour une lettre d'un vieil Arménien perdu en Suède. Maintenant, ils sont plus nombreux, mais à l'époque, c'était rarissime, un vieil Arménien perdu en Suède. Et il m'a envoyé une carte manuelle accompagnée de tout ce qu'il faut, de la Turquie et des pays avoisinants, écrite en arménien, en caractère arménien, avec des chiffres. Et par cette carte et par cette lettre, il voulait me montrer que le fait que les Arméniens qui avaient été obligés de quitter la Turquie s'étaient installés massivement sous l'autorité, soit sous l'autorité française, soit l'autorité anglaise, en Syrie, au Liban ou en Jordanie pour l'Angleterre, pour les Anglais. Ils n'étaient que au plus à 1000 kilomètres de leur village d'origine. Ils avaient fait des chiffres, des flèches, etc. et qu'ils retourneraient.
Il y avait cette histoire de retour, cet espoir de retour.
Cet espoir de retour existait. Et il a pris une autre forme, comme vous le savez peut-être, après la Seconde Guerre mondiale, quand entre 1946 et 1947, l'Union soviétique a permis, voire même a encouragé, le retour des Arméniens de la diaspora, et surtout ceux qui étaient installés autour de la Méditerranée, Syrie, Liban, France, Grèce, en Arménie soviétique. peau. C'est un retour qui n'était pas dans le vrai pays d'origine. Parce que l'Arménie soviétique, c'était l'Arménie caucasienne. Certes, on avait vu affluer vers cette Arménie soviétique probablement 200 000 réfugiés arméniens de Turquie entre 1915 et 1916, surtout 1916, quand les Russes avaient conquis cette partie orientale de la Turquie. Mais ce retour, cet espoir de retour a fonctionné. Les gens voulaient revenir au pays. Il y a une littérature là-dessus. Ça a été un grand échec dans le cas de l'Union soviétique parce qu'ils sont arrivés dans un pays qui n'était stalinien. C'est Staline, hein, 46-47. Certains ont fait immédiatement l'expérience du goulag.
Beaucoup ont été exécutés.
Et ils sont revenus en France. Le gouvernement français pour les Arméniens de France, il en était parti quelques 7000. Le gouvernement français, à partir de 1956, est intervenu pour les faire revenir. Certains ont mis 40 ans à revenir en France.
Anaïde, termination, pour revenir un petit peu à notre époque, quand nous voyons ces flots de réfugiés, de toute confession d'ailleurs, hein, qui viennent, on ne va pas rentrer dans les détails, qui viennent de Syrie et d'Irak, pour ne parler que d'eux, est-ce que vous pensez qu'ils ont toujours ce même espoir de retourner un jour dans ces pays-là ?
Écoutez, l'espoir de retourner, si on s'intéresse aujourd'hui un peu aux Assyro-Chaldéens installés dans le Val d'Oise, en particulier à Sarcelles et
à Montfermeil,
Arnouville-les-Gonesse, Arnouville-les-Gonesse, etc. Je ne sais pas exactement. Vous savez, quand on parle d'émigrés, quand on parle de minorités religieuses, la démographie est totalement incertaine. Mais on peut dire qu'il doit y avoir aujourd'hui peut-être 20 000 30 000 Assyro-Chaldéens installés en France. Vous devriez connaître mieux que moi ces chiffres. En tous les cas, il faut peut-être rappeler que, à ce jour, en tous les cas, au début de l'été 2016, la moitié des chrétiens d'Orient d'Irak avaient quitté l'Irak et un tiers des chrétiens d'Orient de Syrie avaient quitté la Syrie, avaient afflué vers les pays voisins, c'est-à-dire essentiellement le Liban. Le Liban, la Jordanie, excusez-moi, qui est un tout petit pays pas très hospitalier, mais néanmoins qui en a reçu un certain nombre, et vers la Turquie, comme vous savez, à travers la Turquie, vers la France. Bon. À mon avis, la première génération, et même la génération des enfants nés en France, la première génération des jeunes nés en France, cette idée de retour existe. Et vous devriez savoir aussi bien que moi qu'un certain nombre d'Assyro-Chaldéens originaires de Tour Abdin, qui est une région très chère à votre cœur, et de Semenanser, est revenu en Turquie. Je suis incapable de dire combien ils sont.
C'est pas énorme, hein. c'est quelques familles, mais néanmoins, symboliquement, c'est important,
mais
effectivement.
C'est très symbolique. Mais ce symbolique montre qu'il y a cette attente, qu'il y a cette volonté de ne pas couper le lien avec la terre des origines, cette terre sur laquelle a prospéré une certaine culture, sur lesquelles ont été construits ces monastères que vous aimez tellement et que, à l'occasion, chaque fois, vous glorifiez à votre manière. Alors, cet espoir de retour, nous le savons aujourd'hui, il est anéanti par l'expérience. Quand des réfugiés, aussi, dirais-je, aussi douloureux que soit leur sentiment d'exil, se sont installés dans un pays, ont vu naître et grandir leurs enfants en France, ont fréquenté l'école communale française. Au bout de quelques années, ces enfants d'abord cessent de parler la langue des parents, un peu dans la famille, mais si je prends par exemple le néo-araméen, qui est encore utilisé dans la paroisse dans les paroisses
à Sarcelles, à Montfermeil aussi,
ou d'Arnouville, ce néo-araméen n'est pas une langue qu'on parle dans la cité, c'est pas une langue qu'on parle publiquement, c'est une langue qui perd, je dirais, tout prestige social. Ce qui domine, c'est évidemment le français. Et nous savons tous qu'au bout d'une génération, les familles ne retournent pas. Parce que les enfants sont nés en France, deviennent des citoyens français, sont déjà des citoyens français. C'est ce qui a été le cas des Arméniens. Et les familles s'adaptent, se modernisent, Je suis tout à fait enchantée de voir, par exemple, les jeunes filles assyriennes avec des longs cheveux au vent qui ne cachent pas ça sous un voile pudique, qui sont en jean, qui sont tout à fait modernes, qui sont extrêmement actives. Et je dois dire que cette insertion,
une forme d'intégration peut-être,
cette intégration se fait d'autant plus vite que à l'intérieur de ces familles, par exemple, la femme occupe une place beaucoup plus importante que dans la famille musulmane. Il me semble qu'elle est plus libérée dans ses gestes. La mère de famille est beaucoup plus, est une femme qui a son mot à dire, qui n'est pas soumise totalement au sein de la famille, à l'autorité conjugale. Et les jeunes femmes qu'on peut rencontrer, ces jeunes femmes d'origine chaldéenne, assyro-chaldéenne, qu'on peut rencontrer à Sarcelles, sont tout à fait des filles modernes et qui, d'ores et déjà, ont adopté, grâce aussi au fait que la famille traditionnelle, porte un intérêt particulier à l'éducation. Probablement cette longue familiarité avec les textes chrétiens a inculqué à ces familles le respect du livre, de l'école, de l'éducation. Et même dans les conditions difficiles de l'école primaire française aujourd'hui, ces jeunes émigrés réussissent mieux, parfois, que d'autres populations nouveaux arrivants. Et ça a été le cas des Arméniens qui, au bout de deux ou trois générations, se sont totalement intégrés à la nation française.
Alors, Anaïs, termination, pour étoffer votre propos, vous voulez mentionner un livre, c'est Marseillais, venu d'Orient, l'immigration libanaise à Marseille, oui, une thématique assez importante aussi. Un livre qui est sorti chez Cartala, pardon, je vous en prie.
Oui. J'ai Cartala en 2010, mais 2010 c'était avant-hier, c'est presque aujourd'hui. Et ce livre est intéressant dans la mesure où on a oublié, devant les événements actuels du Proche-Orient, cette terrible guerre civile libanaise qui, de 1975 à 1990, a déchiré un peuple de 3 millions d'habitants, mais comprenant 18 confessions religieuses, bon, qui s'est traduit par une guerre civile atroce, avec les mêmes gestes, je veux dire, pratiquement les mêmes événements que ceux que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire deux communautés musulmanes, chiites et sunnites qui sont empoignées, ensuite une guerre civile entre les chrétiens eux-mêmes, qui a abouti à quelques 100 000 morts et blessés et plus de 900 000 déplacés qui ont quitté le Liban et émigré vers la diaspora libanaise dans l'espace mondial, et un certain nombre sont venus se réimplanter en Marseille après avoir quitté. Alors ça, on l'oublie toujours, c'est que souvent ces émigrés ont une histoire très compliquée d'émigration. Souvent, ces Libanais venus à Marseille après et pendant la guerre civile sont des émigrés venus d'Afrique. Car dans la période coloniale, le Liban, qui était un mandat français, a été un lieu favorable à l'émigration des commerçants libanais vers les colonies de l'Afrique équatoriale ou de l'Afrique occidentale française, en particulier le Sénégal, le Mali, la Guinée, etc. D'où ces populations sont reparties, ou sont restés quelquefois, ou sont repartis après les indépendances africaines.
Ils sont repartis au Liban et du Liban.
Non, pas, ils ne sont pas repartis au Liban, ils sont venus en France.
Directement.
Parce qu'ils étaient de culture française. Et venus en France, ils se sont évidemment intégrés d'autant plus facilement qu'ils étaient de culture française et qu'ils ont acquis assez rapidement la citoyenneté française. Mais ce livre est là pour nous rappeler quelque chose que la communauté a complètement oublié, cette guerre civile qui se termine en 1990, c'était hier. Mais ce qui ne s'est pas perdu, c'est cet amour des Libanais pour leur pays. Tous les étés, des centaines de milliers de Libanais quittent soit le Brésil, soit l'Argentine, soit les États-Unis, soit le Canada, soit la France, pour aller au Liban. Le Liban qui est devenu aujourd'hui le réceptacle de 1 million de réfugiés syriens. Et cette histoire qui se déroule devant nos yeux, à l'heure actuelle, au Proche-Orient, cette lutte entre Daesh ou les reliquats de Daesh et les peuples du Moyen-Orient, et la prolongation par étapes successives d'une histoire dramatique qui n'a pas pris fin avec la disparition de l'Empire ottoman.
Alors rappelons le titre de ce livre, c'est Marseillais venu d'Orient, Marseille, cette place importante, ce port, port éternel, port qui accueille.
Oui, mais ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que l'auteur qui est libanaise traite par exemple les Arméniens du Liban exactement comme des concitoyens libanais, avec des caractéristiques particulières. Et là aussi, il y a un double déchirement chez les Arméniens. Il y a celui d'avoir quitté l'Arménie, des ancêtres, des grands-parents, et l'arme d'avoir quitté maintenant les pays d'accueil, Damas, Alep, Beyrouth. Ça fait littéralement partie de l'histoire des Arméniens au XXe siècle. Ça, c'est quelque chose. Alors, si on prend le modèle des Arméniens et si on veut comparer aux autres populations chrétiennes venues du Proche-Orient en France, il faut admirer la mémoire arménienne, c'est-à-dire admirer la capacité qu'ont les Arméniens de France depuis un siècle à maintenir des institutions, des écoles et même à transmettre la langue.
Sébastien de Courtois dans Chrétien d'Orient, nous recevions ce matin Anaïde Termination. Je voudrais rappeler le titre du livre dont nous avons parlé, c'est Marseillais venu d'Orient, Liliane Rada Nasser, paru chez Cartala en 2010. Je voudrais aussi mentionner un autre livre qui est en train de sortir, Le Peuple Invisible de Mylène Sinem Karatas, avec une préface d'Armet Insel, un livre qui est sorti aux éditions Tadé, Le Peuple Invisible. Je remercie pour la réalisation de cette émission Philippe Bredin, Dany Journeau, Didier Pinault, et nous retrouvons maintenant le service protestant avec Michel Schaeffer. Merci.